Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Mon projet initial était de passer du diable au bon Dieu. Mais à la réflexion, j'ai pensé qu'il serait amusant d'effectuer une petite balade dans l'univers noir ou pas des contes de fées à l'origine de mains développements et airs dans l'univers musical. Notre promenade n'est pas chronologique. Pour nous amuser, nous passons d'un univers à l'autre sans transition. Wagner met deux nains en scène, aussi abominables l'un que l'autre. Les deux frères, Mimé et Alberic, dans la tétralogie. Nous retiendrons surtout le second, ancien roi des Nibelungen, des nains, et le frère de Mime. Alberic apparaît à deux reprises. Dans Siegfried, une première fois à l'ouverture de l'acte 2, scène dans laquelle le nain, lorsqu'il rencontre pour la dernière fois Wotan, contre qui il a gardé une profonde rancune, illustrée par l'agitation orchestrale et un débit vocal saccadé. Depuis la fin de l'Or du Rhin, il a veillé sur l'antre du dragon, a perdu l'or, l'anneau et le Tarnhelm, ce fameux home magique qui permet de changer de personnalité, de se transformer, voire de disparaître. Il a nourri des rêves de grandeur. Il aura de nouveau l'anneau, il vaincra le dieu et il pourra totalement triompher. La seconde apparition d'Alberic le confronte à son frère Mime, qui essaie également de se procurer le trésor de Fafner. Et nous écoutons ici le duo Alberic-Mime. Dans Parsifal de Wagner toujours, Kundry est une redoutable magicienne qui révèle au héros l'origine de son nom, pure si folle, avant de se livrer à divers tours et diableries. Nous écoutons le prélude du deuxième acte. Kundry est incité à toutes sortes de diableries et l'atmosphère est particulièrement oppressante. Wagner avait déjà été inspiré par le surnaturel. Les Fées est son premier opéra achevé, jamais donné du vivant de l'auteur qui le considérait comme une œuvre de jeunesse, peu digne de figurer aux côtés des grands drames de sa maturité. C'est le récit d'un impossible amour entre un simple mortel et une fée, composé dans le sillage de l'opéra romantique alors en plein essor dans les pays de langue allemande. Le Freischütz de Weber est l'ouvrage le plus représentatif de ce romantisme tourné vers le fantastique et le féerique. Nous entendons ici la célèbre scène de la Grande Journée. Wagner avait composé un air additionnel pour un autre opéra relevant de cette esthétique du surnaturel, Le Vampire, d'Heinrich Marschner. Cette filiation romantique se retrouve dans plusieurs éléments des Fées. L'utilisation de lieux enchantés et menaçants, la présence d'un cœur d'esprit et une inévitable scène de folie sont rehaussées par une noble atmosphère de chevalerie. Nous écoutons le grand cœur des Fées. Poulenc. Dans les 7 chansons sur un poème d'Apollinaire, on consacre une à la Blanche-Neige, mettant en scène les nains du conte. Nous l'écoutons.
Les anges dans le ciel, l'un est vêtu un officier, l'un est vêtu un cuisinier, les autres chantent, et les autres chantent. Bel officier couleur du ciel, bel officier couleur du ciel. Bel officier, l'entendant après la fête, de la médaille et de son soldat.
Nous évoquerons le Nain d'Alexander von Zemlinsky, un compositeur peu connu en France qui avait succédé à Gustav Mahler à la tête de l'Opéra de Vienne. Juif, il fait partie des artistes qui avaient dû migrer aux États-Unis au moment de l'Anschluss, où il est mort de chagrin, ce qui explique qu'il a été quelque peu oublié dans son pays natal. C'est un conte tragique qui met en scène la brève rencontre entre une femme cruelle et un homme amoureux. Il s'inspire de la nouvelle d'Oscar Wilde, l'anniversaire de l'infante, qui raconte comment une princesse espagnole déshumanisée avait reçu un cadeau sous forme de nain, comme un animal de compagnie. À la bêtise et l'aveuglement de la cour s'oppose la magnifique de ce personnage attachant, transfiguré par son sublime amour. Cruelle, l'infante se joue de lui et de ses sentiments. Elle les rejette et lui tend un miroir. Il prend alors douloureusement conscience de son hideuse différence. Et ce qui a débuté comme un divertissement frivole se clôt avec une brutalité tragique. Nous écoutons le sublime air des Orangers en fleurs. Karl Maria von Weber, dont nous avons déjà entendu un extrait du Freischütz, a offert un cadre superbe aux fées, elfes et nains avec son Oberon, créé dans sa version définitive après sa mort. Nous en écoutons l'ouverture. Conçu à la demande du directeur de Covent Garden sur un livret anglais, Oberon est d'abord un singspiel avec d'importants passages parlés. Le compositeur n'en est pas satisfait, les supprime et revient à une version purement vocale en allemand. Il meurt de la tuberculose et n'a pas pu voir la matérialisation de son dernier projet. Le monde de la danse a puisé dans les contes de fées qui sont littéralement au cœur de la danse classique, où les animaux parlent et les fées existent. Intemporelle, l'intrigue du conte de fées présente des archétypes. La jeune fille pure et fidèle, le héros sur le chemin d'une épreuve initiatique, la figure du mal. L'infinie déclinaison de cette structure fondamentale fut une source inépuisable d'inspiration dans la littérature, les frères Grimm en tête, et on a vu défiler des héros connus de tous les enfants dans les salles de spectacle du monde entier. La Belle au bois dormant, Le petit pas sur la célèbre partition de Tchaïkovski, le merveilleux spectacle de Casse-Noisette, le célèbre ballet de Cendrillon, immortalisé par Rudolf Nureyev. Nous écoutons ici la remarquable musique de Prokofiev sur laquelle dansait l'opéra de Kiev. On a une pensée pour eux. Il y a aussi l'enfant et les sortilèges, toujours sur la magnifique musique de Ravel. On ne résiste pas à la charmante histoire écrite par Colette, d'abord sous le titre d'Histoire pour ma fille, dans une vieille maison de campagne. Au beau milieu de l'après-midi, un enfant de 7 ans est assis, grognant, devant ses devoirs d'école. La mère entre dans la pièce, se fâche devant la paresse de son fils. Puni, il est saisi d'un accès de rage, jette la table chinoise et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, attise la braise avec un tisonnier, renverse la bouilloire, déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge. « Je suis libre, libre, méchant et libre !» Épuisé, il se laisse tomber dans le vieux fauteuil, mais celui-ci recule. Commence alors le jeu fantastique. Tour à tour, les objets, les animaux s'animent, parlent et menacent l'enfant pétrifié. Dans la maison, puis dans le jardin, les créatures exposent une à une leur doléance et leur volonté de vengeance. Alors que l'enfant appelle sa maman, toutes les créatures se jettent sur lui pour le punir. Mais avant de s'évanouir, il soigne un petit écureuil blessé dans le tumulte. Prise de regret, les créatures lui pardonnent et le ramènent à sa mère en l'appelant en cœur avec lui. L'œuvre se termine par les deux syllabes chantées par l'enfant. « Maman !» On peut encore évoquer le grandiose ballet Scheherazade sur une musique de Rimsky-Korsakov. Nous continuerons notre promenade la semaine prochaine.